Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Le Saint-Ange gardien, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, bien, chers amis, nous commençons aujourd'hui le chapitre 20 de Saint Matthieu. Donc, dans le polycopié des chapitres de Saint Matthieu 16 à 20, à la page 35, nous allons commencer par une partie importante sur laquelle les pères ont beaucoup parlé. Les invités à la vigne, les ouvriers à la vigne. Voilà le texte, donc, commence par les chapitre 20 de Saint Matthieu, versets 1 à 16. Je vous lis le texte. Le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit du grand matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. En sortant vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se tenaient oisifs sur la place publique. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième, vers la neuvième heure et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Et ils lui dirent, « Parce que personne ne nous a loués. » Il leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne. » Lorsque le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelez les ouvriers, et payez-leur leur salaire, en commençant par les derniers et en finissant par les premiers. » Ceux qui étaient venus vers la onzième heure vinrent donc et reçurent chacun un denier. Les premiers, venant ensuite, crurent qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmuraient contre le père de famille, disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et vous les avez traités comme nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Mais il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne vous fais point de tort, n'avez-vous pas convenu avec moi d'un denier? Prenez ce qui vous appartient, allez-vous-en, je veux donner à ce dernier autant que vous. » Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux, ou votre œil est-il méchant parce que je suis bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est évident que derrière ce texte, il y a tout un sens symbolique, car ces arrivées différées des ouvriers représentent les différents temps de l'histoire de l'Église. Voyons un petit peu comment les pères de l'Église expliquent la chose. Alors prenons à la page 35, en bas de la page, d'abord que notre général, le père de famille, c'est Jésus-Christ. Le ciel et la terre sont comme sa maison. Sa famille sont toutes les créatures qui habitent le ciel, la terre et les enfers. La vigne, c'est la justice en général, qui renferme toutes les différentes espèces de justice comme autant de plantes vignes, la douceur, la patience et les autres vertus, qui sont toutes comprises sous le nom général de justice. Les ouvriers de cette vigne sont les hommes. Donc les hommes sont tous appelés par notre Seigneur Jésus-Christ, et chacun arrive lorsqu'il est prêt. Chacun arrive lorsqu'il est appelé par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui sont appelés dès le début, la première heure, et il y en a qui sont appelés beaucoup plus tard, qui vont arriver jusqu'à la onzième heure. Donc les heures dont parle l'évangile sont les heures à partir de la première heure du matin, qui est 6 heures du matin. La troisième heure, c'est 9 heures. La sixième heure, c'est midi. La neuvième heure, c'est 15 heures. Et la onzième heure, c'est 17 heures. La journée de travail se finissant à 18 heures. Alors, on voit très bien que le bon Dieu appelle à sa vigne, c'est-à-dire dans son église, tous les habitants. Et il leur promet à tous, même ceux qui arrivent tout à fait à la fin, il leur promet les mêmes résultats, c'est-à-dire les mêmes récompenses. Pour vous aider à la compréhension de ce texte, je voudrais vous lire un magnifique sermon, une partie d'un sermon, écrit par Saint Jean Chrysostome, un grand docteur de l'Église, écrit il y a plus de 1600 ans, mais toujours aussi jeune. Ce sermon n'a pas pris une ride. Et ce sermon reprend exactement ce thème des ouvriers de la dernière heure. Voilà ce texte que j'utilise souvent en fin de retraite, juste après la méditation sur la passion de notre Seigneur. Voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome. Si un homme est dévot et aime Dieu, qu'il participe à cette magnifique fête de Pâques. S'il veut un serviteur fidèle, qu'il entre dans la joie de son Seigneur. S'il a longtemps travaillé dans le jeûne, qu'il reçoive maintenant sa récompense. S'il a ployé sous le fardeau depuis la première heure, qu'il obtienne aujourd'hui ce qui lui est dû en justice. S'il est arrivé à la troisième heure, qu'il garde néanmoins avec action de grâce son cœur à la fête. S'il ne s'est présenté qu'à la sixième heure, qu'il n'ait aucun doute, rien ne lui sera ôté. Et s'il a attendu la neuvième heure, qu'il s'approche cependant sans crainte. S'il a traîné jusqu'à la onzième heure, qu'il ne s'alarme pas de son retard, car le Seigneur, qui est jaloux de son honneur, acceptera le dernier comme le premier, et il donnera à l'un comme à l'autre. Il accepte les œuvres et reconnaît les intentions. Il honore les actes et loue les offrandes. Et s'il a donné le repos à l'ouvrier de la première heure, il l'accordera également à celui qui n'est arrivé qu'à la onzième. Ainsi, entrez tous dans la joie de votre Seigneur et recevez votre récompense, les premiers comme les derniers. Riches et pauvres, tous ensemble, réjouissez-vous, vous qui veillez et vous qui êtes inattentifs, soyez dans l'allégresse. Soyez dans la joie, vous qui avez jeûné et vous qui avez oublié le jeûne. La table est toute garnie, festoyez somptueusement. Le veau gras est tué, que personne ne reste sur sa faim, mais que tous participent avec joie à cette fête de la foi. Recevez tous les richesses de la charité aimante, que personne ne craigne sa pauvreté, car le royaume vous est donné. Ne plairez plus vos iniquités, car le pardon a été accordé du tombeau. Que personne ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous a tous libérés. Celui qui en était prisonnier l'a détruite. En descendant aux enfers, il en est devenu le maître. Déjà le prophète Isaïe, en prédisant ce jour, avait pleuré de joie. L'enfer grince des dents car son pouvoir est détruit. Il rugit car il est couvert de chaînes. Il trépigne de rage car il vous a vu triomphant dans la région des pleurs. Il avait pris une apparence corporelle mais a vu Dieu face à face. Il croyait avoir détruit la terre mais trouva le ciel devant lui. Il avait conquis ce qui peut être vu mais tomba devant l'invisible. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Le Christ est ressuscité. Tu as été renversé, les démons sont tombés, les anges se réjouissent, la vie règne et pas un mort ne demeure dans la tombe. Car le Christ s'est enlevé d'entre les morts et est devenu le premier fruit de ceux qui s'étaient endormis. À lui la gloire et la puissance dans tous les siècles des siècles. Je crois que ce texte explique très bien donc l'évangile de ce début de chapitre 20e de Saint Matthieu. Voyons ce que disent les pères, d'autres pères. Page 36, en haut de la page sur le polycopier. Le texte ajoute, il sortit le matin pour louer des ouvriers. Dieu a comme répandu la justice dans nos facultés, non pas pour lui, mais pour notre utilité. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu se faire homme pour nous, pas pour lui. Nous sommes donc nous comme des mercenaires. Nous avons été loués comme les ouvriers de la vigne. Qui viennent travailler pour ce père de famille. Or, personne ne loue un mercenaire uniquement pour qu'il travaille et gagne sa nourriture. Ainsi, Jésus-Christ ne nous a pas appelés à son service pour nous occuper seulement de nos intérêts, mais encore pour travailler à la gloire de Dieu. Et de même que le mercenaire commence par remplir sa tâche avant de songer à la nourriture de chaque jour, ainsi nous devons d'abord nous appliquer à ce qui doit procurer la gloire de Dieu avant de songer à nos propres intérêts. Donc le but de notre vie, c'est d'augmenter la gloire du bon Dieu. Faut pas oublier ça. Et en sauvant notre âme, nous augmentons la gloire du bon Dieu. Puisque Dieu est venu précisément pour sauver nos âmes. Donc nous sommes des mercenaires. Nous travaillons au service de notre Seigneur Jésus-Christ, comme les ouvriers viennent travailler au service de ce père de famille qui les loue pour la journée. Sauf que nous sommes loués pour beaucoup plus qu'une seule journée. Et quelle que soit la date de notre entrée au service du bon Dieu, le bon Dieu, quand il nous prend tel que nous sommes, à la condition que nous acceptions de monter vers lui. Mais si nous purifions notre âme par le sacrement de pénitence, eh bien il est prêt à donner aux ouvriers de la dernière heure, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés tout à fait à la fin, les convertis, le même résultat, la même récompense que ceux qui étaient là depuis le début, ceux qui sont catholiques depuis le berceau. Le mercenaire, encore, disent les pères, consacre toute sa journée au service de son maître et ne réserve qu'une heure seulement par jour pour prendre sa nourriture. Ainsi, nous devons consacrer toute notre vie à la gloire de Dieu et n'en donner qu'une faible partie à nos besoins temporels. D'abord l'âme, le corps ensuite. Si le mercenaire passe un jour sans travailler, il n'ose paraître devant son maître pour demander son pain. Comment ne rougissez-vous pas d'entrer dans l'église de Dieu et de paraître en sa présence le jour où vous n'avez aucune bonne action sous ses yeux? Donc nous aurons la récompense. La récompense, c'est quoi? C'est le ciel. Dans la mesure où nous venons travailler dans la vigne. Il est évident que si nous restons oisifs sur la place du marché, en refusant de travailler, en refusant de sanctifier, en refusant de nous purifier, eh bien nous n'aurons pas à ce moment-là la récompense promise à ceux qui sont fidèles. Dans un autre sens, disent les pères, le père de famille, c'est-à-dire notre créateur, a une vigne qui est l'église universelle et qui, depuis le juste Abel jusqu'à la fin du monde, a poussé autant de ceps qu'elle a produit de saints. Or, dans aucun temps, Dieu n'a cessé d'envoyer des ouvriers pour instruire son peuple comme pour cultiver sa vigne. Car il l'a cultivée successivement d'abord par les patriarches, puis par les docteurs de la loi, ensuite par les prophètes, et enfin par les apôtres, comme par autant d'ouvriers. On peut dire toutefois que tout homme qui fait le bien avec une intention droite est en quelque manière et dans une certaine mesure un des ouvriers de cette vigne. Nous sommes tous appelés à venir travailler à la vigne du Seigneur. Et ceci s'est toujours fait. C'est pour ça que les différentes heures représentent aussi, d'après les pères, les différentes étapes de la vie du monde. Donc la première heure va représenter la période depuis Adam jusqu'à Noé. La troisième heure va représenter la période depuis Noé jusqu'à Abraham. La sixième heure, la période depuis Abraham jusqu'à Moïse. La neuvième heure, la période Moïse, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la onzième heure représente notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde. Il faut remarquer donc que les quatre premières périodes, Adam, Noé, Abraham, Moïse, jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, représentent la sanctification du peuple juif. Et à la onzième heure, notre Seigneur Jésus-Christ va chercher ceux qui ne sont pas issus du peuple juif. Et donc, les quatre premiers groupes représentent la conversion du peuple juif, et le dernier groupe représente la conversion des gentils. Donc les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, sont aussi appelés par notre Seigneur à venir travailler à la vigne, mais ils sont appelés à la onzième heure, c'est-à-dire à 17h, juste avant la fin du travail. Pour bien nous montrer qu'il n'est jamais trop tard pour nous convertir. Et qu'en fait, les ouvriers de la onzième heure, c'est-à-dire le peuple des gentils, recevra la même récompense que les ouvriers de la première heure, à savoir le peuple juif de l'époque de notre Seigneur. Donc on trouvera au ciel, et Abraham par exemple, et Moïse, et on trouvera en même temps au ciel aussi tous les catholiques qui sont apparus sur la terre, donc après notre Seigneur Jésus-Christ, et qui sont morts en état de grâce. Donc l'église de notre Seigneur Jésus-Christ est une église qui est ouverte pour tous les hommes qui recherchent Dieu. Tous les hommes de bonne volonté. C'est ce qu'on dit dans le Gloria. Gloire au Père, plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Pas paix sur la terre à tous les hommes, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Donc, le denier qui est promis comme récompense représente ici le salut éternel. Le denier était une pièce de monnaie qui valait 10 as et qui portait l'effigie du roi. Le denier désigne donc parfaitement la récompense qui est accordée à l'observation du décalogue. Le décalogue est représenté par les 10 as, valeur du denier. Alors voilà un petit peu les différentes heures dont parle notre Seigneur. La troisième heure, donc, qui comporte et le temps qui s'écoula de Noé à Abraham, et c'est de cette époque que le Sauveur veut parler quand il dit, étant sorti vers la troisième heure, il vit d'autres ouvriers qui se tenaient sans rien faire sur la place publique. Ils attendaient l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ qui va se concrétiser, qui a commencé d'abord avec la survie de la famille de Noé, après l'arche de Noé, le déluge, et jusqu'à Abraham. Alors ici, les pères utilisent certaines comparaisons. Voilà celle d'Origène. La place publique, c'est tout ce qui est en dehors de la vigne, c'est-à-dire en dehors de l'église de Jésus-Christ. Et ces ouvriers oisifs ne sont pas les pécheurs qui sont plutôt morts, mais tous ceux qui n'accomplissent pas les œuvres de Dieu. Voulez-vous ne pas rester oisifs? Ne prenez pas le bien d'autrui et donnez de vos propres biens. Vous aurez travaillé dans la vigne du Seigneur en cultivant le cep de la miséricorde. Remarquez que ce n'est qu'avec les premiers qu'ils s'engagent de donner un denier. Ils louent les autres pour un prix indéterminé. Je vous donnerai simplement ce qui est juste. Donc tout le monde est appelé, à commencer par les Juifs de la première heure. Donc, c'est intéressant de voir qu'Origène montre bien que ceux qui restent oisifs sur la place publique, donc le maître va sur la place du village pour chercher que ceux qui ne travaillent pas, qui sont oisifs, et bien ceux qui sont oisifs ne représentent pas d'après Origène les pécheurs, mais ceux qui n'accomplissent pas tout simplement les œuvres de Dieu, ceux qui sont dans la paresse spirituelle. Pas forcément une faute grave, au moins au début, mais c'est ceux qui ne font pas, qui attendent l'arrivée du bon Dieu, la venue du bon Dieu pour faire leur devoir d'État. Et dès que le bon Dieu les appelle, tout de suite ils partent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils cherchaient le vrai, mais ils attendaient leur heure. Et le bon Dieu va venir les chercher quand ils sont prêts, pas avant. C'est pour ça que Origène dit avec raison, ces hommes oisifs qui attendent d'être embauchés par notre Seigneur au travail dans la vigne du Seigneur, eh bien, ne sont pas les pécheurs, mais les hommes qui attendent, qui n'ont pas encore de travail dans l'Église. Le Seigneur, qui prévoyait la prévarication d'Adam, et qu'après lui tous les hommes devaient périr dans les eaux du déluge, fit avec lui un traité bien précis, afin qu'il ne pût prétexter qu'il avait abandonné la voie de la justice parce qu'il ignorait qu'elle en serait la récompense. Mais il ne s'est point engagé de cette manière avec les derniers, parce que son intention était de les récompenser bien au-delà de ce que pouvaient trop espérer des mercenaires. Donc le peuple juif s'est vu promettre un denier dans la mesure où ils sont fidèles à leur travail, à leur devoir d'État. Malheureusement, lorsque le Messie est arrivé, au lieu de le reconnaître, le peuple juif l'a crucifié. C'est le drame. Au contraire, ceux qui arrivaient avec la 11e heure, qui représente le peuple des catholiques, je vous l'ai déjà dit, le peuple des gentils, la conversion des gentils, eux vont recevoir la même récompense qui était annoncée aux tout premiers juifs. La 6e heure est celle qui s'étend, cette fois-ci, d'Abraham à Moïse. Et la 9e, celle qui s'étend de Moïse jusqu'à l'avènement du Seigneur. La 11e heure, c'est le temps qui s'écoulera depuis l'avènement du Seigneur jusqu'à la fin du monde. La fin du monde, c'est la fin de la journée de travail. Donc tout le monde a fait son devoir d'État, et tous ceux qui ont fait leur devoir d'État, qui sont unis à notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité, pourront participer à la gloire céleste. L'ouvrier du matin, de la 3e, de la 6e, de la 9e heure, c'est donc cet ancien peuple hébreu qui, dans la personne de ses élus, n'a point cessé de travailler à la vigne du Seigneur depuis le commencement du monde en s'efforçant d'adorer Dieu avec une foi droite et sincère. Tout cela, même qu'ils sont morts avant notre Seigneur Jésus-Christ, vont recevoir les récompenses éternelles. Mais ils vont devoir évidemment attendre que les portes du paradis soient réouvertes et ne seront réouvertes qu'à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et strictement parlant qu'au moment de l'ascension. N'oubliez pas que la première chose qu'a fait notre Seigneur après sa mort, le vendredi saint, alors que son corps était encore dans le tombeau, son âme, unie à sa divinité, va descendre dans les enfers. Ce lieu qui n'a rien à voir avec le lieu de l'enfer des damnés, bien sûr. Les enfers, c'était le paradis des patriarches. L'enfer des patriarches, c'est-à-dire des enfers des patriarches, c'était les limbes des patriarches, ce lieu, cette salle d'attente dans laquelle attendaient tous ceux de l'Ancien Testament qui étaient morts en état de grâce, mais qui ne pouvaient pas monter au ciel parce que les portes du ciel étaient refermées. Il a fallu attendre l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc la première chose que va faire notre Seigneur Jésus-Christ, pendant les 36 heures qui va séparer sa mort de sa résurrection, c'est de descendre, consoler tous ceux qui attendaient dans ce paradis, ces enfers des patriarches, ces limbes des patriarches. À la 11e heure, c'est l'appel des gentils. En bas de la page 36, sur le polycopie. Quelle est donc la nature de cette convention et quelle récompense y est promise? C'est la promesse de la vie éternelle. Car les gentils étaient les seuls qui ne connaissaient ni Dieu ni les promesses éternelles de Dieu. Ils sont arrivés au dernier moment. Et lui, il faudrait penser logiquement que ceux qui arrivaient au dernier moment devraient attendre avant de pouvoir monter au ciel. Eh bien non, ceux qui arrivent à la 11e heure, non seulement vont pouvoir aller au ciel, mais rentreront au ciel avant ceux qui étaient là à la première heure. C'est pour cela qu'il est dit dans le texte de l'Évangile, appelez les ouvriers, payez-leur leur salaire, en commençant par les derniers et en finissant par les premiers. Donc ceux qui sont arrivés les derniers, les gentils, le peuple des catholiques, va rentrer au ciel avant les premiers qui étaient là depuis le début. Remarquez, disent les pères, que c'est le soir du même jour et non le matin suivant que le père de famille donne à chacun ce qui lui est dû. Ce sera donc pendant la durée du siècle présent qu'aura lieu le jugement avec lequel chacun recevra ses récompenses. Pour deux raisons. La première, c'est que la bienheureuse éternité doit être la récompense de la justice et qu'il faut par conséquent que le jugement la précède. Et la seconde raison, pour laquelle le jugement doit précéder le jour de l'éternité, c'est afin que les pécheurs ne soient pas témoins du bonheur de ce jour éternel. Donc, ceux qui malheureusement ne sont pas unis à notre Seigneur Jésus-Christ pour la charité le jour de leur mort ne verront pas ce bonheur, même pendant un temps très court ils ne verront pas du tout, parce que justement ils n'arrivent non pas à la 11e heure, ils n'arrivent pas du tout, ils restent sur la place, refusent d'accepter l'invitation du chef de famille, du père de famille, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui invite toutes les âmes à venir travailler dans sa vigne. Et la récompense, notez bien que la récompense ne sera donnée qu'après que le travail ait été fait. Même si c'est que pour une heure. Les ouvriers, la dernière heure, ils sont arrivés à la 11e heure, donc à 5h de l'après-midi, mais ils ont travaillé de 5h à 6h. Je me dis, mais ils ont beaucoup moins travaillé que ceux qui étaient là depuis la 3e heure, depuis 9h du matin. C'est vrai. Mais le bon Dieu donne au dernier comme il a donné au premier, comme il va donner au premier. Il va même donner plus au dernier parce que les derniers ne viennent pas après avoir été préparé pendant des siècles et des siècles, comme le peuple juif a été préparé par les prophéties de l'Ancien Testament. Donc par ces paroles, en bas de la page 37, par le moyen de cette parabole, le Christ veut donc expliquer ce qu'il avait déjà dit. Les premiers seront les derniers. Non, pardon, je me trompe de page là. Donc on est en haut de la page 37, excusez-moi. Alors, voilà ce qui va se passer. Donc le maître dit à son intendant, parle à son intendant. Donc qui est cet intendant? Eh bien, le père explique que l'intendant qui va venir payer les ouvriers, c'est le Saint-Esprit. Et le père de famille, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le maître qui parle à son intendant, c'est en haut de la page 37. Le maître parle à son intendant, c'est-à-dire le Fils à l'Esprit Saint. Le Père dit au Fils, car le Père agit par le Fils et le Fils par l'Esprit Saint, sans qu'il y ait entre eux aucune différence de nature ou de dignité. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est à la fois le Père de famille et l'intendant du maître de la vigne, comme il est lui-même la porte et le portier. Car c'est lui qui doit venir juger les hommes et rendre à chacun selon ses œuvres. Là, on voit déjà intervenir la Sainte Trinité en image. N'oubliez pas la doctrine sur la Sainte Trinité. Trois personnes égales et distinctes. Égales parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais distinctes parce que le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Donc on voit très bien que le Père de famille, notre Seigneur Jésus-Christ, va payer ses ouvriers en passant par son intendant. Appeler les ouvriers. Lui dit-il, payez-leur le salaire en commençant par les derniers, en finissant par les premiers. Et cette méditation, cet évangile des ouvriers de la dernière heure est très important pour nous parce que c'est un bon moyen d'éviter la désolation, de comprendre que même ceux qui arrivent tout à fait à la fin auront la même récompense et même une récompense supérieure que ceux qui étaient là depuis le début. On le voit très bien aujourd'hui, moi je le vois tous les jours ou presque, surtout par les prédications des Églises Saint-Ignace, comment le bon Dieu de plus en plus appelle à son service les ouvriers de la dernière heure qui sont même pas des catholiques souvent. Donc on a souvent des retraitants qui viennent faire les exercices de Saint-Ignace, Dieu merci, je m'en réjouis, qui quand ils arrivent, ben, connaissent même pas le béaba parfois du catéchisme, connaissent pas leur signe de croix, connaissent pas leur prière, ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu, et bien ils vont trouver dans le bon Dieu, ils vont trouver les mêmes récompenses, la même récompense qui était promise à ceux qui sont arrivés depuis le début. Mais attention, que les ouvriers du début, c'est-à-dire ceux qui sont les catholiques de la première heure, qui sont catholiques depuis le baptême comme enfants, comme bébés, eh bien, doivent travailler avec au moins autant d'empressement que ceux qui arrivent à la 11e heure. Et souvent, ce n'est pas le cas. Parce que les ouvriers de la 11e heure cherchent plus Dieu que les ouvriers de la première heure, qui sont un peu contaminés par les idées modernes. Les ouvriers de la 11e heure ne sont pas contaminés par les idées modernes, parce qu'ils en viennent de ce monde moderne. Donc, ils savent très bien ce qu'ils ont perdu. Ils ne veulent surtout pas retrouver tout ça. Et je vois à quel point il est difficile d'expliquer parfois aux ouvriers de la première heure, les chrétiens qui sont chrétiens depuis le berceau, certaines choses, par exemple sur le travail des ennemis de l'Église, à l'intérieur de l'Église, que les ouvriers de la dernière heure, ceux qui arrivent et qui sont les convertis de la dernière heure, comprennent immédiatement. J'ai pas besoin d'expliquer à un ouvrier de la dernière heure, celui qui arrive à la 11e heure, donc un nouveau catholique qui se convertit, j'ai pas besoin de lui expliquer que Bergoglio est un bandit. C'est évident pour lui. Il a compris ça tout seul, c'est pour ça qu'il vient. Alors qu'au contraire, d'expliquer ces choses-là à des gens qui sont des catholiques de berceau, c'est parfois beaucoup plus difficile. Alors, ce notre Seigneur Jésus-Christ, donc, qui récompense les derniers, comme les premiers, fait éclater son ineffable miséricorde. C'est ce que disent les pères, le troisième paragraphe de la page 37. C'est aussi pour faire éclater son ineffable miséricorde que Dieu récompense ainsi les derniers et les moins dignes, afin de récompenser les premiers, avant que de récompenser les premiers, pardon. Car une miséricorde infinie n'examine pas l'ordre et le rang des personnes. Ceux qui se sont convertis à Dieu à la fin du monde ont reçu la même récompense, la même vie éternelle que ceux qui avaient été appelés dès le commencement du monde. Cela doit nous donner une espérance extraordinaire. Donc nous savons que même si nous arrivons à la dernière heure, même si nous sommes des convertis de la dernière heure, le bon Dieu nous attend et nous a préparé une place au ciel. Qu'il est triste parfois de voir plus de ferveur, je vous l'ai déjà souvent dit, je m'excuse de répéter, mais je pense que c'est important à comprendre, qu'il est triste de voir parfois beaucoup plus de ferveur chez des nouveaux catholiques qui viennent d'être baptisés comme adultes, que parfois chez des gens qui ont reçu l'éducation catholique depuis le berceau. Quand j'essaye, par exemple, sur certains détails, je me rends compte à quel point les catholiques de berceau, donc qui ont toujours reçu une éducation catholique, sont contaminés par les idées modernes. C'est terrible. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Une jeune femme de trentaine d'années qui se convertit sur le tard. Donc elle arrive, elle n'a jamais rien reçu en famille, jamais rien reçu dans son milieu social. Elle n'a reçu que des choses purement matérielles. Donc elle se convertit avec la grâce du bon Dieu à la trentaine, par les exercices Saint-Ignace, par exemple. Eh bien, quand je lui explique l'importance pour une femme catholique, pour une femme qui devient catholique, de s'habiller correctement, de montrer l'exemple, de ne plus porter le pantalon, d'avoir des robes suffisamment longues, de s'habiller avec dignité, elles comprennent tout de suite. Et je dirais presque qu'il faut les freiner. Il faut les freiner parce qu'elles veulent aller parfois trop vite. Je suis obligé de leur dire, attention, prenez votre temps, allez-y doucement. Faut pas tout casser dans votre famille. Mais commencez à comprendre qu'il faut vous habiller correctement, elles comprennent tout de suite. Par contre, expliquer ces mêmes choses à des jeunes filles de 17, 18 ans, ou de 20 ans, qui viennent d'un milieu catholique où elles ont toujours été catholiques, ne comprennent pas ces choses-là. Il me traite de tous les noms, littéralement, parce que je demande que ces jeunes filles fassent un effort pour s'habiller correctement. L'injure suprême, c'était à l'époque, pour plusieurs fois, j'ai reçu cette injure. J'aurais été très fier d'ailleurs, le taliban de la tradition. J'étais un taliban de la tradition parce que je demandais à ces dames de s'habiller correctement. Mais le drame, c'est ça, c'est que les nouveaux catholiques comprennent ça beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément que les catholiques de berceau, qui eux ne comprennent pas ces choses-là. Donc cet évangile est un évangile de la miséricorde, qui fait éclater l'ineffable miséricorde que Dieu récompense, que Dieu, l'ineffable miséricorde de Dieu qui récompense les premiers, les derniers comme les premiers. Alors le poids du jour dont parlent tous ces ouvriers de la première heure, qui se plaignent en disant, maître, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, ils sont les ouvriers de la 11e heure, nous avons travaillé depuis le début, puis la 3e heure. Et vous les avez traités comme nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. Et qu'est-ce que représente ce poids du jour et de la chaleur? C'est pendant toute la durée d'une longue vie supporter les fatigues d'une lutte continuelle contre les ardeurs de la concupiscence. Cette chaleur, c'est la chaleur des concupiscences, surtout la concupiscence de la chair. Un autre détail qui est très beau, les pères disent que le denier, qui est le prix qui va être versé en fin de journée, aux ouvriers, le denier porte l'effigie du roi, je vous l'ai déjà dit. Vous avez donc reçu le salaire que je vous avais promis, c'est-à-dire mon image et ma ressemblance. Donc lorsqu'on retrouve l'état de grâce, eh bien on reçoit le denier qui monte l'homme de l'image à la ressemblance. Je vous l'ai déjà dit, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu parce que tous les hommes ont une âme, même les païens. Mais ceux qui vivent dans l'état de grâce, ceux qui sont devenus les enfants du bon Dieu par le baptême et qui vivent selon les promesses de leur baptême, dépassent la simple image de Dieu et vont être créés pas simplement à l'image de Dieu, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Alors, certains pères pensent que l'ouvrier de la dernière heure, qui arrive donc à la 11e heure, c'est-à-dire 5 heures de l'après-midi, donc certains pères veulent voir dans cet ouvrier de la 11e heure l'apôtre saint Paul, qui n'a travaillé qu'une heure, et qui cependant a travaillé peut-être plus que tous ceux qui ont vécu avant lui. Si donc le denier, qui est le même pour vous, pour tous, signifie que la vie éternelle sera égale en durée pour tous les saints dans le ciel, le grand nombre de demeures différentes prouve que la gloire sera plus éclatante pour les uns et pour les autres. Donc la vie éternelle est promise à tout le monde, tous ceux qui vivent en état de grâce, qui meurent en état de grâce, mais le degré de gloire sera différent pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'égalité au ciel. Chaque âme est différente et chaque âme recevra une récompense qui est différente, de la même façon que les ouvriers qui sont invités à la vigne par notre Seigneur Jésus-Christ ne reçoivent tous le même salaire, mais n'auront pas tous la même place au ciel. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. Alors, ceux qui ont le mauvais œil, c'est-à-dire ceux qui commencent à faire du mauvais esprit contre le Maître parce qu'ils ne sont pas payés plus que ceux de la dernière heure, l'œil signifie l'intention. Les Juifs avaient un œil mauvais, c'est-à-dire une intention vicieuse, parce qu'ils s'attristaient du salut des gentils. On voit très bien dans le texte comment les ouvriers de la première heure sont jaloux des ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la première heure représentent les Juifs qui sont jaloux de l'arrivée des ouvriers de la dernière heure, à savoir les catholiques. Alors il en est beaucoup, disent les pères, au milieu de la page 37. Il en est beaucoup qui embrassent la foi, mais il en est peu qui parviennent jusqu'au royaume des cieux. Car la plupart font profession de suivre Dieu, mais s'éloignent de lui par leurs mœurs. Ce n'est pas, encore une fois, celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, il y a d'autres comparaisons. préparée, donnée par les pères. Je vous en donne une autre ici au milieu de la page 37. Donc, l'ouvrier, la première heure, ça représente l'enfance. La troisième heure, c'est l'adolescence, ou la chaleur de l'âge qui se développe et qui est comme le soleil qui s'élève dans la hauteur des cieux. Donc, c'est le début de la journée, 9h du matin. La sixième heure, midi, c'est la jeunesse. Alors que la plénitude de la force s'établit en l'homme comme le soleil qui semble se fixer au milieu du firmament parce qu'on est au milieu de la journée. La neuvième heure, 3h de l'après-midi, c'est comme la vieillesse dans laquelle l'âme descend tous les jours des hauteurs brûlantes de la jeunesse comme le soleil qui descend des points élevés du ciel. Et la onzième heure, c'est l'âge de la caducité et de la décrépitude. Ça, c'est pour moi, ça, c'est mon âge. Je suis dans l'âge de la caducité et de la décrépitude, pareil. Mais le bon Dieu prend les gens là où ils sont. Si on est dans l'âge d'enfance, il demande ce qu'il peut demander à un enfant. Au contraire, si nous sommes dans l'âge de l'adolescence, le bon Dieu va demander davantage et va donner plus de grâce, parce que ceux qui sont dans l'adolescence ont besoin de grâce spéciale dont n'ont pas besoin les enfants. Ceux qui sont en pleine jeunesse, dans la force de la journée, pour recevoir également d'autres grâces, cette fois-ci des grâces de persévérance. Puis après, la vieillesse, la caducité, la décrépitude, c'est les gens qui sont dans ces périodes de vie vont recevoir également d'autres grâces, d'autres sacrements, même spécialement préparés pour ceux qui vont mourir, ces sacrements en extrême onction. Le père de famille, explique les pères, n'a pas loué tous les ouvriers à la même heure, mais les uns le matin, les autres à la troisième heure, et ainsi de tous ceux qui suivent. Mais la cause en est, ça c'est très important, la cause en est dans les différentes dispositions de leur âme, car le Seigneur les appelle lorsqu'ils sont prêts à lui obéir. C'est ainsi qu'il appela le larron au moment où il prévoyait qu'il répondrait à sa vocation. Le bon Dieu agit de façon différente avec chaque âme. Certaines âmes, il leur parle, il les appelle dès le début. Pour d'autres âmes, il attend le dernier moment parfois. C'est le cas du larron. Larron qui a volé le ciel juste avant de mourir. Donc, on pourrait croire que le larron qui arrive au ciel va avoir une récompense moindre que, par exemple, Saint Joseph ou les autres saints qui ont, eux, ont gardé, ont porté le poids de la chaleur du jour. Dans la vie du monde moderne, ils ont conservé la foi et donc ils devraient recevoir, semble-t-il, une plus grande récompense. Eh bien, pas forcément. Parce que bon Dieu, dans sa miséricorde, veut donner au dernier la même chose qu'il a donnée au premier. C'est ce que dit encore l'évangile du jour, l'évangile qu'on est en train de méditer, qui est très important. Prenez ce qui vous appartient et allez-vous-en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à vous. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux ? Votre œil est-il méchant parce que je suis bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est très réconfortant pour nous. Parce que nous, on est souvent les derniers arrivés. Les derniers arrivés auront parfois une meilleure récompense encore que ceux qui sont arrivés tout à fait au début. Ces paroles... Pourquoi demeurez-vous ainsi tous les jours sans travailler ? Ne s'adresse pas à ceux qui, après avoir commencé par l'esprit, finissent par la chair, s'ils veulent revenir plus tard à la vie de l'esprit. En parlant ainsi, notre intention n'est pas de détourner ces enfants voluptueux qui ont dissipé toute la richesse de la doctrine évangéliste en vivant dans la débauche, de revenir dans la maison paternelle. Nous voulons simplement dire qu'on ne peut nullement les comparer à ceux qui ont péché dans leur jeunesse avant d'avoir reçu les enseignements de la foi. Donc les péchés d'un catholique qui tombe sont beaucoup plus graves que les péchés de quelqu'un qui n'était pas encore catholique au moment où il est tombé. Et Jésus termine en disant « Les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers. » Il fait ici allusion indirecte tant à ceux qui, après avoir brillé d'abord d'un vif éclat, ont ensuite méprisé les leçons de la vertu, qu'aux autres qui, ramenés des sentiers du vice, sont élevés au-dessus d'un grand nombre par la sainteté de leur vie. Cette parabole a donc été composée pour exciter l'ardeur de ceux qui ne se sont pas convertis, qui ne se sont convertis que dans leur extrême vieillesse, et les délivrer de la crainte de recevoir une récompense moins grande que les autres. Encore une fois, c'est l'exemple du bon larron. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Le bon Dieu ne lui a pas dit, tu vas d'abord passer plusieurs siècles au purgatoire, Il faut te purifier de tous les péchés passés. Tu as été un bandit pendant toute ta vie, non? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et comprenons que lorsque le bon Dieu pardonne aux pécheurs repentants, non seulement il pardonne, mais il oublie les péchés. Une chose que nous sommes absolument capables de faire. Nous, on peut pardonner à quelqu'un qui nous a offensés, mais oublier l'offense, c'est pratiquement impossible. Ce sont des grâces tout à fait particulières du bon Dieu. Par le moyen de cette parabole, donc, le Christ veut expliquer ce qu'il avait déjà dit. Les premiers seront les derniers. Et montre qu'avec la grâce de Dieu, sans aucune injustice ou blessure faite à quiconque, ceux qu'on aurait pensé être à la première place au jugement seront à la dernière. Et ceux qu'on croyait à la dernière seront à la première. Ainsi, les apôtres et les fidèles méprisés qui ont suivi le Christ seront au royaume du ciel préférés aux scribes et aux pharisiens. Les croyants gentils seront préférés aux juifs qui avaient pourtant été appelés les premiers au royaume des cieux, c'est-à-dire dans l'église militante et triomphante. Voilà une source de grande espérance pour nous. On voit bien que les juifs convertis au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont vraiment devenus les disciples et les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, vont passer avant les scribes et les pharisiens qui étaient pourtant les gardiens de la loi. On voit très bien ça aussi dans l'évangile du pharisien, du publicain. Le pharisien qui est plein de lui-même sort du temple, il n'est pas pardonné de ses péchés, alors qu'au contraire, le publicain qui n'ose même pas lever les yeux vers le tabernacle, parce qu'il est, c'est un pécheur, ayez pitié de moi, Seigneur, je suis un pécheur. Et celui-là repartira chez lui, purifié, et pas le premier. Donc les enfants du Nouveau Testament, surtout les apôtres, qui doivent siéger sur 12 trônes au jour du jugement, seront préférés aux enfants de l'Ancien Testament, qui sous les ombres des sacrifices légaux ont fait leur service laborieusement, confiant dans les œuvres de la loi, affirmant faussement que le royaume des dieux serait pour eux, mais qui rejetèrent le Christ. N'oublions pas que les plus grands opposants à notre Seigneur Jésus-Christ, en son temps, furent ceux qui avaient été choisis, d'une certaine façon, par Dieu, pour être les dépositaires de la loi. Ceux qui étaient choisis par Dieu pour devenir non seulement les dépositaires de la loi, mais ceux qui devaient préparer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le rôle des scribes, le rôle des pharisiens. Et malheureusement, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive, au lieu de l'accueillir et le présenter aux autres, ils le font tuer. Alors, d'autres explications des pères, troisième paragraphe de la page 38. Le vignoble représente l'église, la place du marché, le monde. Et ceux qui sont appelés à la première, troisième et sixième heure sont les juifs, appelés à la foi et à l'adoration de Dieu par leur père, Abraham, Jacob et Moïse. Et ceux qui furent appelés à la onzième heure sont les gentils. On a déjà expliqué ça, mais je relis le texte. Le soir représente le jour du jugement, où chacun va recevoir sa récompense, soit déjà donnée au cours de cette vie, c'est le cas des juifs, ou qui sera donnée au ciel, c'est le cas des gentils. Donc malheur à ceux qui ont déjà reçu la récompense matérielle ici-bas. Le bon Dieu qui sait qu'il ne peut pas récompenser quelqu'un, une âme, après la mort, parce que cette âme malheureusement ne va pas mourir en état de grâce, ne va pas apparaître devant Dieu en état de grâce au soir de son jugement. Le bon Dieu qui est plein de justice, va récompenser les âmes qu'il ne peut pas récompenser après la mort, il va les récompenser ici-bas. Et alors, c'est pour ça qu'on voit souvent des grands ennemis de l'Église qui ont tout. Ils ont toutes les fortunes possibles et imaginables. Et c'est une objection qu'on nous fait très souvent. Surtout les adolescents nous font cette réflexion et je les comprends. Ils disent, monsieur le maire, comment ça se fait que les bandits, tous ceux qui font tout pour détruire complètement la France chrétienne, comment ça se fait que ceux-là, ils ont tout? Alors qu'au contraire, les chrétiens sont persécutés. La réponse est toute simple. Ces ennemis de l'Église, ces ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, ces ennemis du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ils reçoivent leur récompense ici-bas, parce qu'ils ne pourront pas la recevoir après. Et quand ils vont arriver devant notre Seigneur Jésus-Christ, au soir de leur jugement, ils auront les mains vides. Alors qu'au contraire, les catholiques qui sont persécutés, eux, auront déjà suivi la voie de pénitence ici-bas à cause de la persécution et eux seront acceptés au paradis. Et rappelez-vous la prophétie de Siméon. Cet enfant vient pour la chute ou la résurrection de beaucoup en Israël. Et ce sera un signe de contradiction. Pour la chute ou la résurrection, la chute c'est quoi? C'est ceux qui refusent notre Seigneur, qui meurent en état de péché mortel. La résurrection, c'est au contraire ceux qui montent au ciel, parce qu'ils meurent en état de grâce. Alors soyons dans l'allégresse, mes bien chers frères, même si nous avons bien des croix, bien des épreuves. Souvent, les nouveaux catholiques me le disent, monsieur l'abbé, depuis qu'on est catholique, on a beaucoup plus de croix qu'avant, beaucoup plus d'épreuves qu'avant. C'est normal, parce que vous êtes devenus des amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on devient un ami de notre Seigneur Jésus-Christ donne sa croix surtout à ses amis, parce que ses ennemis ne veulent pas la porter. Alors il la donne, il la répartit sur le dos et les épaules des bons catholiques, parce qu'il sait que ces bons catholiques, eux, ils vont accepter de m'aider à porter la croix. Pour les Juifs, donc le denier promis par Dieu était une récompense temporelle, une abondance de bénédictions temporelles. Mais pour les gentils baptisés, le denier était bien plus noble car il signifiait la vie éternelle. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. On n'a pas été créé pour gaver notre âme de biens matériels ici-bas. Combien de fois j'ai entendu cette réflexion quand j'étais aux États-Unis. Regardez, monsieur l'abbé, comme le bon Dieu a béni les États-Unis. Tous nos magasins sont pleins. Oui. Carl Robinson disait, ne remerciez pas le bon Dieu, remerciez le démon, parce que c'est lui qui nous donne cette abondance. Parce que cette abondance, justement, va dessécher complètement notre âme. Les Juifs, donc, recevaient un denier de cuivre ou d'argent, mais pour les ouvriers de la dernière heure, qui sont les chrétiens, ce sera un denier d'or. Donc la parabole signifie que les gentils qui croient au Christ seront préférés aux juifs qui l'ont méprisé. Le denier représente objectivement la même bénédiction, la même essence divine qui constitue le bonheur des saints. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour tout le monde, mais malheureusement, les juifs du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, pas tous, mais au moins les membres du Sanhédrin, les autorités juives et ceux qui les suivaient, de voir rater la porte du ciel, parce qu'ils ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est eux qui vont le faire crucifier. Et ils ont cette remarque terrible, terrible, et pourtant elle a été écrite cette remarque, que son sang retombe sur nous et sur la tête de nos enfants. Ils ont été exaucés. Cependant, encore une fois, je vous l'ai déjà dit souvent, cela ne nous autorise pas à être anti-juifs parce qu'ils sont juifs. Il faut prier pour leur conversion. Il faut prier pour que ces pauvres gens qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ dans le passé, aujourd'hui, au contraire, utilisent le sang rédempteur pour se convertir. J'ai pas eu beaucoup, très souvent, d'occasion de baptiser des juifs. En fait, ça m'est arrivé qu'une fois. Petit juif de New York, près de New York, que j'ai baptisé, une jeune fille qui a fait la retraite. Bon, pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de convertir un juif ? Tout simplement parce que les juifs attendent un messie temporel. Un messie temporel, c'est-à-dire qu'ils mesurent leur bénédiction par les choses temporelles. Et c'est pour ça d'ailleurs, il faut bien reconnaître que les juifs qui ont beaucoup plus d'aptitude que nous à manipuler l'or, à manipuler les richesses, c'est pour ça qu'ils contrôlent le monde. Vous voyez ? Alors qu'au contraire, les catholiques qui ne sont pas toujours très malins pour manier ces choses-là, eh bien eux auront leur récompense plus tard, pas ici-bas. Mais prions pour nos frères les juifs. Il faut prier pour eux parce que ce sont nos frères dans la foi, dans le sens qu'ils sont du peuple qui était le peuple élu au temps avant notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il ne l'est plus. Et il ne faut pas oublier qu'à la fin des temps, il y aura la conversion au moins d'une partie du peuple juif, d'un reste du peuple juif. Il faut prier pour eux. Et en aucun cas, je vous l'ai déjà dit souvent, c'est la doctrine de l'Église, en aucun cas nous sommes autorisés à être contre les juifs parce qu'ils sont juifs, comme nous ne sommes pas autorisés à être contre les noirs parce qu'ils sont noirs, ou contre les jaunes parce qu'ils sont jaunes. Ça, c'est la vraie charité catholique. La vraie charité catholique, c'est quoi? C'est accueillir tout le monde dans le paradis. C'est à s'arranger, préparer le terrain pour que tous les gens qui vivent dans le péché sortent du péché pour trouver la vertu de charité et trouvant la vertu de charité puissent monter vers le ciel. Voilà notre travail. La fruition de ce denier, qui est le salaire, dont parle l'évangile de saint Matthieu au chapitre 20, la fruition de ce denier est différente selon différents degrés de mérite. Car ceux qui ont servi Dieu avec de plus grandes grâces et de travaux, comme les ouvriers qui ont été appelés en dernier, contempleront Dieu avec une vision plus claire et plus parfaite et auront donc une fruition supérieure de son amour et seront plus bénis que ceux qui ont servi Dieu avec moins de grâces et de travaux. C'est pour ça qu'on trouve, c'est triste, mais c'est comme ça, on trouve parfois beaucoup plus de générosité chez les ouvriers de la 11e heure que chez les ouvriers de la première heure ou de la 3e heure. Car ce denier signifie une égalité d'éternité, non de gloire. Tous ceux qui ont travaillé dans le champ seront payés, mais n'auront pas tous la même gloire au ciel. Attention, dans le ciel, il y a plusieurs demeures, dans plusieurs gloires au ciel. C'est évident que la gloire de la Très Sainte Vierge Marie au ciel, la gloire d'un Saint Joseph au ciel, sera largement supérieure à la gloire de beaucoup d'entre nous, si nous y sommes, un jour au ciel, avec la grâce du bon Dieu. Alors, moralement parlant maintenant, le sens anthropologique de cet évangile. Le vignoble est l'âme que chaque homme doit cultiver. C'est la page 38, au milieu de la page. Nous sommes donc appelés à travailler dans ce vignoble, notre propre âme et l'Église de Dieu. Donc on est appelé non seulement à travailler dans le vignoble, mais dans toute l'Église de Dieu, et bien sûr dans notre propre âme. Les ouvriers du vignoble ne sont pas honorés en fonction du temps de travail, mais pour la diligence, le zèle et l'esprit avec lequel ils ont travaillé. On sera jugé en fonction de notre degré de charité pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, des grands pécheurs qui se convertissent avec la grâce du bon Dieu ont plus d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils lui doivent plus. On voit très bien, par exemple, dans la vie d'un saint Augustin, la vie d'un sainte Marie-Madeleine, qui avait beaucoup plus d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ que d'autres personnes, parce qu'il savait justement qu'il venait de la boue du péché, du fond du gouffre. Donc Dieu a dû manifester davantage sa gloire avec une sainte Marie-Madeleine, d'un certain côté, qu'avec d'autres saints et saintes qui n'ont pas commencé dans le péché, comme sainte Marie-Madeleine ou saint Augustin. Donc l'essence de l'âme est le vignoble, planté dans le terreau du corps. Ses facultés sont les grappes et les œuvres de la charité en sont le vin. Donc les grappes doivent être fixées à la croix, ne vont donner du vin que dans la mesure où ces grappes sont pressées, écrasées par les souffrances. Croix au pied de laquelle nous creusons une tombe à cause de l'approche de notre mort et l'enterrement. Donc nous sommes le cep, nous sommes les sarments de la vigne. Nous sommes comme les sarments de la vigne et ces sarments doivent produire du raisin. Et ce raisin ne va pas donner du vin comme ça. Avant de pouvoir donner le moût du vin, puis du vin, le raisin doit être broyé, trituré, écrasé. C'est la même chose pour notre âme. Pour pouvoir justement donner du vin agréable pour notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien il faut passer par les souffrances, ceux qui vont venir après moi, qui prennent sa croix et qui me suivent. Là, il y a des comparaisons magnifiques des pères de l'Église. Le vignoble doit être protégé du sanglier de la forêt, des plaisirs de la luxure, de la bête sauvage particulière, le péché d'orgueil qui rend l'homme particulier, mais aussi du renard, de la flatterie fourbe, du loup, de l'avarice, du chien, de la médisance. Nous devons prier Dieu qu'il envoie sur son vignoble la pluie de la doctrine, la chaleur de la charité et du fumier, la mémoire de la mort de son Fils et des saints martyrs. Fumier, ça semble mauvais, mais c'est un engrais magnifique. De même que la mort des martyrs, les souffrances des martyrs sont des choses terribles, mais ce sont des choses qui amènent à la vie éternelle. Donc l'âme est verte comme un vignoble, avec des fleurs et des feuilles, qui sont les saints désirs et les paroles édifiantes. Elle verse les larmes de la componction, exhale la douce odeur des vertus, porte les grappes mûres des bonnes œuvres. L'homme fidèle accomplit dans son âme les mêmes travaux que le vigneron fait dans son vignoble. Il taille, il bêche, il transplante, il démêle les branches. Le fidèle fait mystiquement la même chose. C'est-à-dire que notre âme est comme un vignoble, comme une vigne, comme un plant de vigne. Et qu'est-ce que fait le jardinier qui vient s'occuper de cette vigne pour que cette vigne donne des belles grappes, pour que cette vigne puisse donner du bon vin? Qu'est-ce qu'il fait? Il va amender la vigne. Il passe avec son sécateur et il coupe. Il coupe des branches, il laisse certains rejetons, mais pas tous, si c'est ce qu'il fait. Et quand on coupe une branche dans une âme, ça fait mal. Ben, mon Dieu, il fait la même chose avec nous. Il travaille sur nos âmes, il coupe nos âmes, il émonde nos âmes, il purifie nos âmes en coupant certaines parties de l'âme. Et c'est comme ça qu'on éradique, au moins en partie, les trois concupiscences, la chair, l'orgueil, les yeux. Donc on ne peut pas lutter contre les trois concupiscences sans souffrir, parce qu'ils font émonder. Émonder, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on émonde d'abord? Notre volonté propre. La première chose qu'un catholique doit émonder en lui, c'est sa volonté propre, et ce n'est pas quelque chose de facile du tout. En bas de la page 38, il y a encore d'autres données des pères. Donc, symboliquement, Origène comprend l'intendant qui va devoir verser leur salaire aux ouvriers. Il comprend l'intendant comme les saints anges ou saint Michel. Mais saint Rémy pense qu'il représente le Christ lui-même, qui en tant qu'homme est l'intendant de Dieu le Père. Donc à ce moment-là, vous voyez, d'après certains pères comme saint Rémy, donc le père de famille qui est propriétaire de la vigne n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais Dieu le Père est l'intendant, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc en tant qu'homme, il est l'intendant de Dieu le Père qui jugera en son nom les vivants et les morts. Saint Irénée, notre Père de l'Église, il voit plutôt l'image du Saint-Esprit qui dispense les dons et les grâces, la gloire et les récompenses. Dieu couronne ses propres dons et non pas les mérites. D'accord? Donc ce que bon Dieu voit dans nos âmes, c'est les dons qu'il a placés lui-même. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Donc ce ne sont pas nos mérites qui vont nous sauver, mais les dons que le bon Dieu a placés dans notre âme, ces dons qui permettent que nous gagnions des mérites. Les mérites, ils viennent de Dieu. Tout ce qui est en nous de bon vient de Dieu, tout ce qui est en nous de mauvais vient de nous-mêmes. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Donc notre Seigneur veut donner la vie éternelle à ceux qui ont travaillé beaucoup et à ceux qui ont travaillé peu. Car ceux qui ont beaucoup travaillé ne doivent pas se glorifier de leur propre force. Beaucoup sont appelés à la grâce et à garder les commandements, mais peu sont choisis pour la grâce extraordinaire qui consiste à garder les conseils évangéliques. Donc Dieu demande à tous les hommes, le minimum pour se sauver, c'est de pratiquer les 10 commandements de Dieu. Ça, c'est obligatoire. C'est la loi naturelle. C'est la loi divine qui est obligatoire pour tous les hommes. Pour certains, que Dieu aime d'une façon plus particulière, il confie en plus des 10 commandements, il leur confie les conseils évangéliques. C'est les trois conseils de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. C'est la vie religieuse. Donc la vie religieuse, c'est la vie de ceux qui sont les chéris du bon Dieu. Et pourtant, Dieu sait si le bon Dieu va émonder parmi, justement, ces gens qui sont ses amis tout particuliers, à savoir les moines, les religieux. Alors, nous avons terminé donc l'explication de ce magnifique évangile, donc chapitre 20, Saint Matthieu, versets 1 à 16, des ouvriers de la dernière heure. N'oublions pas, mon bien cher frère, que vous et moi, nous sommes souvent des ouvriers de la dernière heure, donc il ne faut pas nous décourager. Et même si nous sommes arrivés à la dernière heure, ben nous aurons, avec la grâce du bon Dieu, nous aussi, la récompense que notre Seigneur Jésus-Christ a promis à tous ceux qui l'aiment. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur le degré de charité que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un qui a un grand degré de charité, eh bien, recevra bien plus de récompenses que quelqu'un qui a un petit degré de charité. Donc, nous avons terminé donc les versets 1 à 16. Et donc, si Dieu veut, la semaine prochaine, nous prendrons les versets. Nous reprendrons verset 17 du chapitre 20 de Saint Matthieu. Peut-être pour terminer, je pense, complètement ce chapitre 20 la prochaine fois. Donc à la page 39 jusqu'à la page 42. N'oubliez pas que je vous conseille à tous, je vous l'ai déjà dit souvent, mais j'insiste parce que c'est très important, de relire par vous-même, autant que faire se peut, de relire par vous-même le polycopié. Après avoir écouté le cours, relisez-le dans la journée, dans la semaine, pour vous imprégner justement de ces textes des pères. C'est pour ça que je vous ai donné ce polycopié. Vous savez, on oublie les choses. Moi, j'oublie tout le temps tout ce que je dis. Hein. Donc, je suis obligé de relire les choses, réapprendre les choses, parce qu'on oublie tout. Mais demandez justement cette grâce de savoir utiliser toutes ces grâces que le bon Dieu vous donne par l'écoute de ces cours, pour que vous puissiez justement vous imprégner de l'esprit d'Église. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.